Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Sept personnes tuées et trois autres blessées dans une attaque attribuée aux rebelles de la Codeco. C'est une façon de venger la mort de leurs proches abattus le vendredi dernier à Damas par la milice Zaïre. À cet effet, la coordination provinciale de la société civile lance un appel aux autorités pour stopper ce tuerie. Et puis 20 morts sur le bilan d'un accident de circulation survenu au village Makola dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. L'ivresse au volant serait la cause de cet accident d'après l'administrateur du territoire. Enfin, un projet pour la promotion et la défense des droits des femmes ainsi que la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes a été présenté à Kisangani jeudi dernier à la presse par le président du groupe Lotus Dismas Kitenge. Il est notre invité dans ce journal. Il nous parlera des stratégies pour mener à bon port ce projet. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, une attaque des assaillants de la Codeco dimanche dernier dans les villages de Mbijo, Akwe, Sukisa, Juda et Jingu a causé la mort de 7 personnes et 3 autres grièvement blessées dans les territoires de Djougou. Selon des sources de sécurité, les victimes seraient des éléments de la milice Zaïre. Pour les Codeco, c'est une façon de venger la mort de leurs proches abattus vendredi dernier à Damas par la milice Zaïre. C'est ce qu'estiment certains observateurs. La coordination provinciale de la société civile, Force Vive, appelle les autorités à prendre des dispositions pour stopper ce tuerie. Marcel Kizabiamungu.
C'est à peine journée de dimanche alors que beaucoup de fidèles revenaient des prières qui ne disaient ne dorment en armes. Identifiés aux assaillants de la Codeco à provenance de Damas, Ngoro et Doukri se sont introduits simultanément dans 4 villages environnants. Il s'agit de Mbijo, Sukisa, Chudja et Njinga dans le groupement des Gou. Selon des sources de sécurité, ces malfrats ont indistinctement tiré des coups de feu sur les gens, créant un sauve-qui-peut général. Dans la foulée, cette personne qui serait de la milice Zaïre seront mortellement touchées par balles. 3 autres seront blessés, dont une femme. Ces rebelles ont pris en otage plus de 20 personnes, dont le sort n'est pas connu jusqu'à ce lundi matin, indiquent des sources locales. Avant de se retirer de ces entités, ces bandits armés ont pillé des chèvres, poules, panneaux solaires et incendié plusieurs maisons d'habitation. Face à ces violences et dans sa communication de ce lundi, la coordination provinciale de la société civile invite le gouvernement à bien identifier les auteurs de ces tueries pour qu'ils répondent de leurs actes. Son coordonnateur Dieudonné Lossa demande aux autorités militaires de prendre au sérieux cette situation qui prend des allures identitaires. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Nord-Kivu, 3 femmes ont été décapitées ce week-end dans le village Kilambo par des hommes armés non autrement identifiés. Kilambo est un village du groupement Ikobo en territoire de Walikale. La notabilité de ce coin dit craindre le mode opératoire de présumés auteurs. Elle invite les autorités militaires de dénicher les auteurs. Blaise Nongala.
Un notable d'Ikobo indique que les 3 victimes sont toutes les vendeuses des haricots. Ils étaient portés disparus depuis lundi dernier et leurs corps ont été découverts hier dimanche par les passants entre les villages Bukumirwa et Kilambo. Ces femmes ont été tuées à coups de machette par des hommes jusqu'ici inconnus alors qu'elles revenaient de Miriki où elles sont allées s'approvisionner en haricots. Les circonstances de ces meurtres restent un mystère dans cette contrée. La notabilité du groupement Ikobo s'est dit inquiète de voir ces modes opératoires se reproduire dans les Walikale en territoire de Beni. Elles appellent ainsi les autorités provinciales de tout mettre en œuvre pour prévenir les pires, comme le dit ici le député provincial Eli de Walikale, Prince Kiangi.
Ce qui nous fait peur le plus, et ce que nous dénonçons ces jours, c'est de constater que le mode opératoire des ADF dans les Beni commence à se faire observer dans une partie du territoire de Walikale et dans le sud du territoire de Lubero. Je crois que ça doit interpeller les autorités et nationales et provinciales afin de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'empêcher l'extension des ADF et de leur mode opératoire dans le territoire de Walikale et dans une partie du territoire de Lubero.
De leur côté, le service de sécurité annonce l'ouverture des enquêtes pour élucider les circonstances de ces meurtres.
Toujours au nord Kivu, la situation restait calme dans les principales villes et agglomérations de la province. Ceci en dépit des appels à la reprise des manifestations ce lundi pour exiger le départ de la MONUSCO. Toutefois, dans certaines entités, les activités socio-économiques tournent au ralenti par peur d'éventuelles représailles. Aucun incident n'a été enregistré jusqu'à la fin de la matinée. Et puis, une ville morte est observée ce lundi dans la ville de Baraka et en territoire de Fizi, dans le sud de la province du Sud Kivu. C'est à la demande des groupes de la société civile qui demande le départ de la MONUSCO, de la RDC, en particulier de la ville de Baraka et du territoire de Fizi. Depuis ce matin, aucune manifestation publique n'est observée sur les artères principales de Baraka ni du territoire. Seules les forces de la défense et de l'ordre sont visibles sur les différents points chauds et vers le quartier général de la MONUSCO à Mushimbakiye. Par ailleurs, magasins, marchés, écoles ont tous fermé. Pas de circulation de véhicules, motos, piétons dans la ville. Tandis qu'à Mboko, chef-lieu du secteur de Tanganyika, la route nationale numéro 5 est bloquée par les manifestants, mais aucun incident signalé ce matin. Au Kassai oriental, tous les auteurs des actes de vandalisme des paroisses catholiques sont excommuniés de cette communauté ecclésiastique. La décision vient d'être rendue publique par le chancelier de l'évêque de Mbujimayi. Dans ce décret pénal, l'évêque exclut définitivement tous les auteurs des actes de vandalisme à la suite de la violation du canon 1382, paragraphe 1er du code du droit canonique. Des explications avec Esther Ndalafina.
L'évêque du diocèse de Mbujimayi a signé ce décret à partir de l'étranger où il séjourne. Au cours de la lecture faite par le chancelier, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda exclut de l'Église catholique tous les auteurs de vols, des objets sacrés ainsi que des actes de vandalisme perpétrés dans quelques paroisses catholiques depuis bientôt quelques semaines.
Ayant constaté la grave violation du canon 1382, paragraphe 1 du Code des droits canoniques et de l'article 3, paragraphe 1, numéro 1 de la Sacramentorum Sanctitatis Tutela, déclare « sont excommuniés tous les auteurs de ces actes de vandalisme et leurs complices ».
Toutes les paroisses victimes de profanation des lieux de culte ont été momentanément fermées. Les mains se sont tenues dans des lieux inhabituels. Indignation de quelques paroissiens.
Nous sommes totalement blessés et nos cœurs saignent parce que c'est très difficile de voir encore les prêtres s'habiller devant nous. Après la messe, ils se déshabillent encore devant nous. C'est ça ce que nous n'avons jamais vu. Ça nous fait beaucoup pleurer.
Signalons que la police nationale congolaise dit poursuivre les enquêtes, mais aucun suspect n'est jusque-là arrêté. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, un accident de circulation a fait 20 morts au niveau du village Makola à 125 km de Kasomeno dans le territoire de Kasenga. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. D'après l'administrateur du territoire, un camion transportant des produits de la Brasimba et des passagers s'est renversé. L'ivresse au volant serait la cause de l'accident. Le détail avec Paul Amunanga.
L'administrateur du territoire de Kasenga indique que l'accident s'est produit ce samedi vers 18h. Le camion provenait de Lubumbashi et s'est rendu à Kalemi. Crispin Mumbakinde précise que le camion appartenait à un privé transportant des produits de la Brasimba et une quarantaine de passagers assis au-dessus des casiers. D'autres sources dans la cité de Kilwa signalent que les chauffeurs conduisaient en état d'ébriété. Le camion s'est renversé, des centaines de casiers et des passagers qu'il transportait sont tombés. On déplore 20 morts sur place, dont la majorité des victimes ont moins de 18 ans et une vingtaine de blessés. Le chauffeur a tenté de s'enfuir, mais il a été maîtrisé. L'administrateur du territoire souligne que les blessés ont été acheminés dans des centres de santé les plus proches. Certains membres des familles sont arrivés sur les lieux du drame pour récupérer leurs proches décédés, mais les corps non identifiés seront enterrés sur place, précise l'administrateur du territoire de Kasenga. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et puis au Congo central, des embouteillages monstres s'observent dans le territoire de Kasangulu à cause du rétrécissement de la chaussée au niveau du secteur de Luila sur la route nationale numéro 1. D'après le commandant territorial de la police, Benjamin Banza, le passage est bloqué sur les deux bandes après un accident de circulation survenu samedi dernier. Conséquence, les produits agricoles provenant de différents coins de la province en partance pour Kinshasa pourrissent en cours de route. La même source précise que jusqu'à présent, il n'y a pas danger pour soulever le véhicule qui bloque le passage. Le point avec Nana Plurichimambo.
Sur la nationale numéro 1 au niveau du village Kinkoutou dans le secteur de Luila, les deux bandes de la route sont fermées. La première l'a été il y a plus de deux semaines suite aux travaux de réfection menés par l'entreprise chinoise Mango. En croire les commandants territoriaux de la police Kasangulu, la fermeture de cette bande allée vers Matadi avait déjà mis à mal la circulation des véhicules sur cette route d'intérêt national. La situation s'est aggravée samedi dernier après la chute d'un véhicule de marque Iveco Hero sur la deuxième bande. C'est ce qui a paralysé totalement la circulation des véhicules dans ces deux territoires voisins de Kasangulu et Madimba. les longues files des véhicules dont la majorité transporte des produits agricoles périssables, à savoir les bananiers à destination de Kinshasa pour la vente, traînent depuis samedi au niveau du village Mbanzaboma dans les territoires de Madimba sur la nationale numéro 1. Le bus des différentes agences de voyage faisant la ligne Matadi-Kinshasa mettent beaucoup de temps avant d'atteindre la ville de Matadi qui est tard dans la soirée. Jusqu'à présent, aucune solution n'est trouvée. Le colonel Benjamin Banza, commandant territorial de la police Kasangulu, dit attendre l'engin de cette entreprise chinoise pour dégager la voie en attendant la réouverture de la deuxième bande qui mène vers la ville de Matadi par l'entreprise chinoise Mango. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, le conseil local des jeunes de Kamanyola interpelle le gouvernement congolais sur le délabrement de la route nationale numéro 5. Un tronçon d'environ 40 km est devenu impraticable dans les escarpements de Ngomo en territoire de Walungu. Une situation qui impose aux utilisateurs de passer par le pays voisin avant de revenir en RDC. Emmanuel Lamegi.
L'état de la route nationale RN5 se dégrade au jour le jour en son tronçon entre Kamanyola et Nyantende, une distance d'environ 40 km, ce qui pousse les conducteurs à emprunter la voie du Rwanda pour revenir à Bukavu par la frontière de Ruzizi. Ainsi, la jeunesse de Kamanyola dit regretter que les Congolais se servent des pays voisins pour voyager entre Uvira, Kamanyola jusqu'à Bukavu. Monsieur Manyema Wema Kialangalidwa, vice-président du conseil local de la jeunesse.
Si la route Ngomo-Bukavu-Kamanyola-Uvira est construite, la population ne peut plus continuer à souffrir par des décisions du pays voisin qui est le Rwanda. Nous demandons au gouvernement congolais de réhabiliter cette route d'intérêt public pour permettre aux citoyens congolais de circuler librement la nuit et la journée. Nous appelons aussi aux élus nationaux de mener la pression auprès du gouvernement central pour que cette route soit une priorité aux prochaines sessions parlementaires.
Plusieurs sources nous renseignent que les fonds pour la modernisation de la RN5 existeraient bien en banque à Kinshasa. L'entreprise Sinohydro est toujours en attente du décaissement de ces fonds pour poursuivre les travaux. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et on parle de santé au Nord Kivu. Au moins 11 cas de décès dus à la recrudescence des cas de choléra ont été enregistrés jusque le week-end dernier dans la localité d'Entoto. C'est dans la zone de santé de Kibou en territoire de Walikale. Face à cette situation d'urgence, le Forum des organisations nationales humanitaires pour le développement a lancé depuis le week-end un appel à la mobilisation des fonds au niveau local et national pour apporter une aide d'urgence afin de faire face à cette maladie diarrhéique qui menace de s'étendre sur tous les territoires de Walikale et ses environs. Falcon Consumusier Africa.
Dans un communiqué, ce forum indique que plusieurs autres personnes malades sont en observation dans les structures sanitaires qui n'ont pas de médicaments. Pour l'aide responsable, un certain nombre de contributions sont déjà disponibles dès ce mardi. Ils pourront acheter un premier lot de médicaments et l'acheminer en toto pour limiter tant soit peu la propagation de la maladie, a indiqué Vicar Batoudi, point focal de la thématique protection dans ce forum.
Prioritairement, on va acheter les sérums, donc des Ranger lactate pour aider les infirmiers à avoir suffisamment de liquide à administrer aux patients parce que lorsqu'il y a diarrhée, c'est plus la déshydratation qui accélère les décès. Et donc, on doit fournir une quantité importante de Ranger lactate, mais aussi des cathéters et d'autres médicaments antidiarrhéiques que nous allons acheter dès demain.
Ce forum appelle à notre le gouvernement à trouver une solution rapide car c'est de sa responsabilité. Signalons qu'il y a quelques jours, un député provincial élu de Walikale a alerté les autorités provinciales sanitaires sur cette maladie et demandé que des mesures soient prises pour limiter la propagation. D'autant plus que la localité d'Entoto, déjà très enclavée, connaît également beaucoup de problèmes d'approvisionnement.
Un mot de la politique dans cette édition du journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, invite Jean-Marc Kaboun ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale pour une audition le concernant. C'est à la suite de la demande du procureur général près la Cour de cassation. Jean-Marc Kaboun a décliné la première invitation lui envoyée la semaine dernière par Christophe Mbosso. Alors, dans une interview exclusive à Radio Capi ce lundi matin, Maître Guilain Mwangi, communicateur du parti Alliance pour le changement, affirmait que son président ne répondra pas à l'invitation du président de l'Assemblée nationale tant que les préalables à une telle séance ne sont pas toujours remplis. Pour lui, Jean-Marc Kabound, en tant que légaliste, a eu à répondre au premier mandat de comparution décerné par le procureur général près la Cour de cassation et attend comparaître à nouveau demain mardi pour apporter les éléments de preuve pour achever son instruction de manière adéquate. Maître Guylain Mwangi, communicateur du parti Alliance pour le Changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, l'a dit au micro de Blaise Shindani Kambala.
La démarche du président Bosso n'est qu'une posture conspirationniste, une entorse de plus aux normes juridiques de la Constitution au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'une part. D'autant plus qu'il n'arrive pas à rencontrer la demande de l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound, qui requiert l'annexion d'une copie du réquisitoire du PG afin de mieux préparer une défense proportionnelle. Cela demeure une violation du droit de la défense d'une autre part. S'il y a une messe noire, déjà dite au bureau de l'Assemblée nationale, profitant de la période de vacances parlementaires pour se livrer à des interprétations singulières des textes légaux en vigueur dans notre pays, jusqu'à se substituer à la Cour constitutionnelle, dans le but de lever les immunités de l'honorable Jean-Marc Kabound et autoriser illico presto des poursuites judiciaires, alors ils peuvent déjà s'y atteler. Je ne peux que vous confirmer que le président Jean-Marc Kabound Kabound sera présent mardi 9 août 2022 au parquet général pour poursuivre l'instruction déjà entamée à ces niveaux.
Actualité internationale.
Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé ce lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août à N'Djamena. Mais le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, FACT, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord malgré les espoirs des médiateurs à Doha qui ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute.
L'invité.
Un projet pour la promotion et la défense des droits des femmes ainsi que la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes a été présenté à Kisangani jeudi dernier à la presse par le président du groupe Lotus. C'est Dismas Kiteng. Il est notre invité dans ce journal et il nous parle des stratégies pour mener à bon port ce projet. Il s'entretient ici avec Jacques Moukonkole. Suivez.
Dismas Kitenge, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'annoncer un projet pour la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce qui l'a motivé?
Notre motivation est par des constats et des enquêtes que nous avons menées sur le terrain ici, qui sont gagnées dans le reste de la province de la Tchopo. Et des résultats de nos constats et enquêtes, nous sommes tombés sur le fait que beaucoup de femmes ignorent d'abord leurs droits et devoirs. En matière de défense de leurs intérêts, de leurs actions. Et deuxièmement, nous avons constaté que beaucoup parmi les femmes de la province de la Tchopo sont analphabètes, elles ne savent ni lire ni écrire. Et nous avons constaté aussi qu'il y a la sous-représentativité des femmes dans les institutions publiques. Au gouvernement provincial, sur 10 ministres, il n'y a que 2 femmes. Au niveau de l'Assemblée provinciale, sur 28 députés provinciaux, il n'y a que 2 femmes. Au niveau des bourgmestres des communes de Kisangani, il n'y a qu'une femme sur 6 bourgmestres. Qu'au niveau des administrateurs des territoires, aucune femme administratrice des territoires parmi les 7 territoires que nous avons. Nous avons constaté aussi dans le milieu rural qu'il y a beaucoup de cas de mariage précoce. Donc nous avons constaté aussi qu'il y a des cas de pratiques de prostitution forcée. Et il y a aussi le problème de moins de filles qui arrivent aux études secondaires et pire encore aux études universitaires.
Quelle est la valeur de cette enveloppe et quelle en est la durée?
18 mois, la première année 9 mois. Et la deuxième année, 9 mois pour une somme de 51 000 dollars pour 18 mois. Et ce projet va concerner 3 axes principaux.
Et quels sont ces axes?
Il y a la sensibilisation des femmes et des jeunes filles dans les écoles, les communautés, les églises, les organisations féminines. Il y a aussi un autre secteur de renforcement de leurs capacités pour connaître leurs droits et les défendre. Nous avons aussi troisième axe, c'est l'axe de l'assistance judiciaire et juridique. Et là, nous allons sélectionner 20 cas de violences sexuelles et de discrimination qui seront soutenus par des avocats pour défendre défendre les victimes dans toutes les procédures judiciaires. Et enfin, il y a l'axe de plaidoyer. Plaidoyer auprès des autorités locales, auprès des autorités nationales, auprès des décideurs, des autorités de la justice, suivant les domaines de travail que nous allons faire. Et les plaidoyers, c'est un axe transversal de toutes les activités que nous aurons à mener.
Dismas, vous pensez que en mettant ce projet en place, vous allez aider les femmes à recouvrer leurs droits et même à lutter contre les violences basées sur les genres?
Oui, en mettant en place ce projet qui vient en complément des autres projets qui se trouvent dans la province de la Tchopo qui sont soutenus par des partenaires internationaux, en complément de ce qui s'est fait déjà et pour renforcer ce qui ne s'est fait pas. Donc nous contribuerons à lutter contre l'ignorance.
Dismas, quelles sont les activités que vous aurez à mener?
Nous allons sensibiliser les jeunes filles et les femmes à connaître leurs droits, passer dans beaucoup de structures. Nous allons aussi renforcer leurs capacités et de cette manière, ce serait une contribution. Donc notre projet n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, mais c'est pour résoudre quelques problèmes et créer une synergie avec les autres. Et notre contribution, c'est de soutenir l'État dans ses efforts et d'amener aussi les partenaires internationaux qui soutiennent le peuple congolais dans son ensemble, c'est-à-dire État et population, à faire mieux leur travail. Nous allons donc travailler en synergie avec ce qui se fait dans la société civile, par les organisations de la société civile, et ce qui se fait par l'État, et nous mettre ensemble, et de cette manière, nous allons contribuer. Et ce travail-là, c'est un travail de longue haleine.
Où est-ce que ce projet sera mené? Est-ce que ce sera seulement dans la ville de Kisangani, ou bien vous allez vous déployer aussi dans d'autres entités de la Tchopo?
Oui, les projets prévoient la ville de Kisangani, et les 7 chefs-lieux des territoires de la province de la Tchopo.
À quand le début de l'effectivité de ce projet?
Nous avons déjà commencé avec la sensibilisation de certaines femmes dans les églises ici, dites de revers à Kisangani, et aussi les églises telles que l'église catholique à travers le maman catholique.
Qu'attendez-vous des bénéficiaires de ce projet?
Nous attendons des bénéficiaires qu'ils puissent vraiment agir, qu'ils soient des acteurs, qu'ils commencent à mener des actions dans ce sens-là, sans nous, puisque nous, c'est pour les renforcer et renforcer leurs capacités.
Dismas Kitenge, merci.
Merci beaucoup.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, était notre invité dans cette édition du journal. Mise en onde par Jean-Claude Siala, coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir suivis.